Bonsoir et merci de rester à l'écoute des programmes du Studio Kalangou. Il est 18h. Bienvenue au journal en français au micro Diallo Mariama Kenda. Au sommaire, situation sécuritaire très préoccupante dans la zone frontalière du Mali et du Niger. Dans son rapport publié le 12 juin, International Crisis Group alerte les autorités nigériennes et recommande des solutions pour mettre fin à cette situation, notamment les conflits communautaires. Vous entendrez des détails dans ce journal. La réhabilitation urgente de la route Tawa-Agadez-Arlit complètement dégradée, une grande préoccupation de la société civile d'Agadez, surtout avec la saison des pluies imminentes. Vous entendrez leur cri d'alarme dans cette édition. Enfin, ce soir, dans votre partie magazine, il sera question de l'édition 2018 de la Journée mondiale du don de sang célébrée hier jeudi 14 juin par la communauté internationale. À cette occasion, vous entendrez le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, sur la promotion et la sensibilisation du don de sang et du produit sanguin pour la santé de tous. La situation sécuritaire très préoccupante dans les zones frontalières du Niger et du Mali. À ce sujet, dans son rapport publié le 12 juin, International Crisis Group alerte les autorités nigériennes et recommande des solutions pour mettre fin à cette situation, notamment de conflits communautaires. Les détails avec Tanane Foudé Ahmed.
Un nouveau foyer insurrectionnel se développe à la frontière entre le Niger et le Mali, rapporte International Crisis Group. Selon cette organisation, les violences en zone rurale se sont aggravées à la frontière entre ces deux pays sur fond des rivalités entre communautés pour le contrôle de l'espace et des difficultés des États à réguler les conflits locaux. Selon Crisis Group, la circulation des armes et montée des tensions entre les communautés fait l'affaire des groupes djihadistes ont profité des désordres locaux engendrés par la crise malienne de 2012 et la faible présence de l'État pour s'implanter. Pour faire face à cette situation, Crisis Group recommande aux autorités nigériennes d'adopter une approche plus politique, incluant dialogue, réconciliation entre communautés et proposition d'amnistie pour les personnes n'ayant pas commis des crimes graves. Les partenaires occidentaux doivent mettre leurs opérations militaires au service d'une telle approche plus adaptée aux besoins locaux.
Les Britanniques ont commencé à déployer au Sahel un détachement d'hélicoptères de transport lourd Chinook pour épauler les troupes françaises dans le cadre de l'opération Barkhane, a indiqué jeudi l'état-major français des armées, nous apprend une dépêche de l'agence France Presse du 14 juin. Mercredi sont arrivés les premiers éléments du détachement Chinook britannique qui comptera 3 hélicoptères de transport lourd et sera déployé à Gao, dans le nord du Mali, a déclaré le porte-parole de l'état-major français, le colonel Patrick Steger. Les premiers Britanniques sont arrivés à Niamey et les hélicoptères suivront, a-t-il précisé. Le détachement de près d'une centaine d'hommes sera totalement opérationnel en juillet-août. Certains migrants accueillis au niveau du centre de transit de l'Organisation internationale des migrations OIM d'Agadez sont visibles ces derniers jours en ville où ils s'adonnent à la mendicité. Azawa Mahaman, le chargé de communication de l'OIM Agadez, tient à apporter des précisions sur cette situation. Je vous propose de l'écouter.
Durant toute l'activité que nous faisons, tous ces migrants, comme vous le constatez, ils sont pris en charge. Ils n'ont aucun problème de soins, de santé, ils n'ont aucun problème de la nourriture. Seulement, le constat remarqué est que ces migrants sortent en ville et s'adonnent à des activités de mendicité. C'est de l'argent qu'ils demandent auprès de la population. Nous ne pouvons pas donner de l'argent aux migrants pour s'adonner, mais on les prend en charge de façon, parce qu'il est en détresse quand il vient au centre de transit. C'est ces mesures que nous sommes en train de faire, d'informer la population que ces migrants qui sont en train de s'adonner à des activités de mendicité sont pris en charge par l'OIM, et donc c'est pour tenir l'opinion en témoin, dire qu'au niveau de l'OIM, conformément à notre mandat, nous assistons ces migrants.
Propos recueillis par Moussa Maman. La société civile d'Agadez lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Elle souhaite la réhabilitation urgente de la route Tawa-Agadez-Arlit avant la saison des pluies. Suivons ce reportage de notre correspondant Anissé Kari.
La RTA, route Tawa-Arlit, est dégradée depuis plus de 10 ans. Les usagers attendent sa réhabilitation. En prélude à la saison des pluies qui va causer davantage de soucis, la société civile de la région a lancé un appel à l'endroit des autorités compétentes. Boutali Chouéren, président de l'association Lahanakal, membre du comité de paix d'Agadez.
Chaque année, il y a vraiment un problème de passage de transporteurs sur cette voie à partir de la digue. C'est toute la voie RTA, la route Tawa-Arlit. Et chaque année, nous avons des promesses pour la reconstruction de cette route-là. Aujourd'hui, on est en 2018, rien n'est fait. Le gouvernement essaie de faire quelque chose. Pour voir que la RTA ou bien les digues là ont commencé à avoir un espoir de réparation.
Pour le directeur régional de l'équipement d'Agadez, Wayou Ibrahim, les voies et moyens sont en train d'être envisagés par l'État pour la reprise des travaux.
Le problème qui s'est posé, c'était ce fonds Arriva. Il y a eu des petites difficultés, mais maintenant l'État est en train de voir les voies et les moyens pour pouvoir redémarrer ces projets. Et je vous assure que ça est en très bonne voie. Et Inch'Allah, il ne se passe grand chose, les travaux vont arriver. En ma qualité de directeur régional de l'équipement d'Agadez et en même temps le chef du projet de la réhabilitation de la RTA, je vous informe et je vous dis encore qu'il ne reste pas grand chose pour que ces travaux puissent redémarrer.
La population d'Agadez attend le début des travaux de la route Tawa-Arlit et la réhabilitation de la digue Teloa à la veille des grandes pluies. Anissé Karim, Agadez pour le studio Kalangou.
Les membres du Conseil supérieur de la communication CSC sont en formation de 48 heures depuis ce matin à Niamey avec pour thème la gestion du pluralisme médiatique et d'opinion. La formation a pour objectif de familiariser les nouveaux membres du CSC aux outils de la régulation des médias. Écoutons les explications de Dr Kabirou Sani, président du CSC au micro de Habibou Garba.
On s'est rendu compte que dès notre installation, il était un peu difficile pour certains membres qui n'avaient aucune connaissance de la régulation avant leur installation, de s'approprier d'avoir les outils de base. Qu'est-ce que la régulation? Quels sont ses principaux objectifs? Qu'est-ce que le pluralisme d'opinion ou le pluralisme politique en matière électorale ou en matière hors électorale? Donc c'est pour cette raison que nous avons initié cette formation en fait qui fait partie de la base même de la mission des régulateurs. Parce qu'un régulateur qui ne connaît pas ses missions, qui ne connaît pas leurs fondements institutionnels et légaux, est déjà handicapé par rapport à sa mission. Donc c'est pour cela que nous avons initié cette formation et le consultant que nous avons retenu, c'est l'ancien président du CSC. La raison toute simple, il a un capital d'expérience par rapport à ce qu'il a vécu lui-même.
Dr Kabirou Sani, président du CSC. La communauté musulmane du Niger a fêté hier jeudi l'Eid el-Fitr correspondant à la fin du mois béni du Ramadan. Quelles sont les précautions à prendre par le jeûneur après un mois d'abstinence? La réponse de Dr Maman Sani, médecin nutritionniste, chef du district sanitaire du premier arrondissement de Niamey.
Les précautions qu'il va falloir prendre, c'est d'éviter de s'égaver pour éviter des conséquences liées au gavage. C'est ça le premier élément de précaution à prendre. Il faut prendre des petites quantités d'alimentation de manière fractionnée. Le deuxième élément, c'est de savoir quoi manger. Éviter aussi de boire des boissons qui sont gazeuses, des boissons qui ont beaucoup de sucre ajouté, mais aussi éviter la consommation des aliments qui peuvent créer des problèmes pour la santé, notamment des aliments qui sont les aliments riches en sucre ajouté surtout, mais aussi les aliments riches en graisse, mais aussi en sel, surtout les aliments qui contiennent beaucoup des épices, des bouillons que nous voyons sur le marché qui peuvent entraîner des pathologies cardiovasculaires.
Propos recueillis par Gungu Maman Dantani. 24 heures après la célébration de la fête du Ramadan, le prix de la pintade a chuté. Cette baisse de prix s'explique par la mévente de cette volaille d'une part, faute d'argent, et d'autre parce que certains clients se sont approvisionnés dans les villages alentours. Ce sont là quelques raisons données par les vendeurs rencontrés au marché de volaille de Yantala.
Nous avons vendu l'unité de pintade au prix de 5 000, 4 000. Mais maintenant que la fête s'est passée à 3 500, 3 000, ce qui a fait que le marché n'a pas répondu à nos attentes, c'est relatif à la morosité économique que connaît le pays. Aussi, c'est pas qu'il y a eu plus d'importation de pintade, non. C'est qu'en fait, les clients qui est habitué à acheter 20 pintades cette année, ils n'achètent que 5 ou 6 pintades. En ce qui concerne les poulets, là, au moins ça va, puisque le nombre livres qui nous restent ne dépassent pas 36 poulets. Cette année, le marché n'a pas répondu à nos attentes. En majorité, les habitants de Niamey sont allés en campagne pour se procurer les volailles. Ce que nous avons amené n'a pas été vendu. Non, nous n'avons pas rehaussé les prix, puisque nous les avons vendus à 4 500, voire même 3 500 francs. En campagne, nous les avons achetés à 4 000. Et ici, nous étions même arrivés à les vendre au même prix. Mais cette année, c'est même les plus gros qui n'ont pas pu être vendus.
Propos écueillis par Adama Danwaki, une mission du comité de dialogue inter et intra-religieux, c'est dire au titre de la région de Tillabéri, séjourne à Filingué, les objectifs du déplacement avec pasteur Salmanou Abou.
C'est dire ces comités de dialogue inter et intra-religieux, c'est des leaders religieux qui se sont mis ensemble pour se concerter entre eux pour la promotion de la paix, si vous voulez, en amont. Nous sommes à Filingué juste pour pouvoir mettre en place le bureau de CEDIR. Donc, nous sommes là pour mettre en place dans 10 communes de Tillabéri. Nous avons Ayourou, nous allons Yogourou, nous avons Hamdallaï, nous avons Mbaléara, nous avons Abala, il y a aussi Torodi, il y a aussi Saï, il y a Tamou et Jelajo, y compris Filingué, pour faire la promotion de la paix. Nous avons doté le bureau avec le matériel pour qu'ils se mettent à travailler à l'instant même après la mise en place. Il y a d'autres équipes qui vont venir pour qu'ils puissent vraiment sensibiliser le groupe, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils doivent faire.
Sport, football, deuxième journée du tournoi de la Coupe du Monde de football Russie 2018. Après l'ouverture officielle hier, deux équipes africaines sont entrées en compétition. Il s'agit des Pharaons d'Égypte, dont le groupe a battu par l'Uruguay par 1-0, but marqué dans le temps additionnel. Notons que les Égyptiens ont joué sans leur star Mohamed Salah. Pourtant, ce dernier s'est remis à sa blessure contractée lors de la finale de la Ligue des Champions et son nom figurait sur la feuille de match. Dans le groupe B, les Lions de l'Atlas du Maroc jouent contre les Iraniens depuis 16h, heure de Niamey. La partie magazine de ce journal à présent, il est question de l'édition 2018 de la Journée mondiale du don de sang célébrée hier jeudi 14 juin par la communauté internationale. À cette occasion, vous entendrez le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, sur la promotion et la sensibilisation du don de sang et du produit sanguin pour la santé de tous.
S'il n'y a pas de transfusion sanguine, il y a beaucoup de malades, en tout cas, qui vont mourir par manque de sang. Selon les normes de l'OMS, en principe, il faut que la population d'un pays, que 1% à 2% puissent donner leur sang pour qu'on parle d'autosuffisance au niveau de la transfusion sanguine. Je crois que le Niger fait à peu près 20 millions d'habitants. Donc, ça veut dire, si on prend 1%, au moins qu'il y ait 200 000 dons par an, pour qu'on parle de couverture. Et en 2017, donc les dernières statistiques qu'on a, on est à peu près à 100 000. Donc c'est-à-dire 50% des besoins sont couverts. Malheureusement, les autres 50% ne sont pas couverts. Et l'important du don de sang, ça se voit tous les jours. Comme j'ai coutume de le dire, la transfusion, c'est un point central de la médecine. Vous voyez, vous prenez une spécialité chirurgicale quelconque qui va certainement demander du sang, vous allez les traumatiser de la route. Vous avez les drépanocytaires qui ont besoin de sang. Vous avez les cancéreux qui ont besoin de sang, vous avez les paludiens graves qui ont besoin de sang, les maternités aussi, bien sûr, les femmes qui accouchent et qui ont des difficultés d'accouchement.
Docteur, qui peut donner son sang?
Le premier critère, c'est être en bonne santé. Deuxième critère, c'est être âgé de 18 à 60 ans quand on est donneur la première fois et jusqu'à 65 ans quand on est un ancien donneur. Ensuite, si c'est une femme, par exemple, quand elle a ses règles, comme on dit, elle ne peut pas donner. Ou bien quand elle allait, elle ne peut pas donner.
Comment on donne le sang?
Pour donner le sang, bon, c'est simple. Hein. Il y a un service d'accueil. À Niamey, à l'intérieur aussi, on a Zender, on a Agadez, on a Tawa Maradi. Donc, c'est la même chose. Vous venez à l'accueil, on prend vos coordonnées. Ensuite, vous passez voir un médecin. Il va vous poser quelques questions. Ces questions sont importantes parce que ça permet de sélectionner ceux qui sont en bonne santé. Donc, si par exemple, vous venez, vous dites au médecin que vous avez été malade il y a une semaine ou 10 jours, on va différer. On va vous dire de revenir plus tard. Donc, l'étape de la sélection médicale est extrêmement importante. Et on demande au donneur d'être franc, puisque de sa franchise dépend la survie de quelqu'un. Donc il faut dire réellement si vous avez été malade, si vous avez des comportements à risque. Tout ça, c'est des personnes qu'on écarte. Une fois que la poche est prélevée, donc on envoie directement les poches au niveau du laboratoire. Donc c'est au niveau du laboratoire qu'on fait les différents tests. Et quels sont les tests que l'OMS recommande dans nos régions? Il y a au moins 4 tests. Donc le test sur le VIH-SIDA, le test sur les hépatites, il y a 2 sortes, l'hépatite B, qui a un vaccin, l'hépatite C qui n'en a pas encore, et puis il y a la syphilis. Quand tout est bon, ça atterrit donc au niveau de la distribution. Et c'est à ce niveau-là que les différentes structures sanitaires, publiques comme privées, viennent avec leurs bons. Donc chaque hôpital ou chaque service a son casier.
La fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.